Merci Sonia, bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Entendez-vous l'écho. L'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, du nom de cet ensemble de cinq pays qui réunit le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie, est sur toutes les lèvres et est au cœur de tous les mécontentements, et plus précisément celui des agriculteurs qui, depuis trois jours, manifestent leur inquiétude vis-à-vis des conditions qu'imposerait un tel accord s'il est adopté. Or, ce traité porte un nom, celui de libre-échange. Le mot est lâché, l'émission peut commencer.
Nous devons enfin boucler l'accord de libre-échange du Mercosur après plus de 20 ans. Le processus de négociation a pris beaucoup trop de temps et ce n'est pas un bon exemple de bonne pratique. Nous avons besoin de plus d'accords de libre-échange. Le monde change.
Ce Mercosur va être une véritable catastrophe pour nos filières agricoles. Avec ce traité, on va quand même importer des produits alimentaires, notamment de la volaille, de la viande bovine, qui n'ont pas les mêmes normes, et ce, sans barrière douanière. Donc on est en train de sacrifier nos agriculteurs sur l'autel du libre-échange.
On nous impose un traité qui va importer massivement des produits alimentaires qui seront moins chers, qui ne respectent en aucun cas nos normes de production.
Ont envie de faire des traités de libre-échange, surtout, et n'importe comment, sans réfléchir aux répercussions derrière.
Olaf Scholz le défend, des eurodéputés comme l'élu Rassemblement National Anne-Sophie Frigou, qu'on entendait à l'instant le conspu, et les agriculteurs le rejettent. Mais de quoi le libre-échange est-il le nom? De la pratique à la théorie, de la théorie au modèle et des modèles aux accords et aux institutions, le libre-échange s'est progressivement incarné au cours des siècles passés, se teintant des aspirations économiques et politiques des protagonistes concernés. Il a ainsi fait au fil du temps l'objet de débats virulents entre économistes qui se répondent les uns aux autres, parfois à des décennies d'écart, car derrière les barrières que l'on doit lever ou au contraire imposer au commerce international se pose en réalité une question fondamentale: d'où provient la richesse des nations? Commercer revient-il nécessairement à assurer la prospérité de toutes et tous? Deux invités sont avec nous en studio aujourd'hui pour répondre à ces épineuses questions. Guilain Deleplace, vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également Flora Bellone, vous êtes professeure d'économie à l'Université Côte d'Azur. Vous êtes également chercheuse au CREDEG, le groupe de recherche en droit, économie et gestion. Vous êtes aussi chercheuse associée à l'OFCE Sciences Po. L'OFCE, je le rappelle, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et vous avez coécrit avec Raphaël Chiappini, il y a quelques années je crois, un ouvrage aux éditions La Découverte, dans la fameuse collection Repères, un ouvrage donc intitulé La compétitivité des pays. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Guilain Deleplace, on a entendu différents sons de cloche à l'instant. Tous font résonner la notion de libre-échange dans le contexte très actuel qui est le nôtre, celui de ces fameuses négociations autour du Mercosur. En tant qu'historien de la pensée économique, les enjeux qui sont évoqués là, autour du libre-échange, résument-ils bien, selon vous, tout l'enjeu de cette notion à travers l'histoire, à savoir comprendre si oui ou non le commerce international va être bénéfique à l'économie nationale?
Alors je crois qu'il faut voir que la question du libre-échange international n'est qu'une partie d'une interrogation plus large et qui traverse l'histoire de la pensée économique depuis au moins trois siècles sur la relation entre ce qui se passe à l'extérieur d'une nation et ce qui se passe à l'intérieur d'une nation. Et il y a deux expressions peut-être qui permettent de cadrer cette tension entre l'intérieur et l'extérieur. C'est d'un côté l'expression laisser-faire et de l'autre côté l'expression libre-échange, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Alors en français, c'est l'expression laisser-faire qui apparaît d'abord. Elle apparaît très tôt. Bon, il est d'usage de rappeler que c'est Turgot qui l'attribue en 1759 au marquis de Gournay, mais Turgot précise tout de suite que c'est beaucoup plus ancien, puisque l'origine remonterait à un marchand qui s'appelait Legendre, qui s'adresse ainsi à Colbert, donc dans les années 1680, en disant « Laissez-nous faire, laissez-nous faire. Nous savons ce qu'il compte faire. » Et donc on voit bien qu'immédiatement, cette question du laisser-faire concerne la relation entre la liberté de l'activité économique individuelle et l'État. Est-ce que l'État doit ou non contraindre cette liberté économique individuelle? Et c'est plus tard que cette notion de laisser-faire évolue pour devenir donc la notion qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le libre-échange, dans le cadre non plus de l'intérieur d'une nation, mais des relations entre les nations. Et grosso modo, cette notion se popularise à l'occasion des discussions, des débats sur les deux traités entre la France et la Grande-Bretagne en 1786 et puis surtout au 19e siècle, en 1860, le fameux traité Cobden-Chevalier qui introduit un libre-échange dans les relations entre l'Angleterre et la France. Donc je crois que ce sera pas mal, si c'est possible, en tout cas du point de vue de l'histoire de la pensée économique, sans cesse de se rappeler que la question du libre-échange international ne peut pas être séparée, ce qui ne veut pas dire qu'elle se confond, de la question du laisser-faire intérieur.
On va revenir, Guylain Delaplace, sur ces traités que vous venez d'évoquer, puis sur cette histoire longue, effectivement, du laisser-faire, et puis aussi sur ce que vous soulevez qui est intéressant, sur ce savoir-faire, ce savoir des marchands. On va y revenir. Flora Bellone, on parle là d'un traité dit de libre-échange, mais est-ce qu'il n'est pas un peu illusoire de parler du libre-échange comme d'un tout homogène et unifié? Quand on parle de traité de libre-échange, dans quelle mesure ça se réfère finalement à une notion collectivement partagée ou au contraire à quelque chose de beaucoup plus circonstancié? Est-ce que c'est le libre-échange ou est-ce que c'est un libre-échange parmi tant d'autres?
Alors, quand on se réfère à l'accord Union européenne-Mercosur, c'est un traité de libre-échange qui vient s'ajouter à tout un ensemble, effectivement, de règles et d'institutions qui se sont construites petit à petit et qui encadrent, effectivement, qui favorisent la libre circulation des biens et des services au-delà de nos frontières nationales, donc qui s'étend, cette libre circulation que l'on a au sein des frontières, qui l'étend à l'extérieur. Donc, effectivement, c'est une construction d'institutions. Et la première chose par rapport à cette question, c'est qu'il faut vraiment distinguer les gains du libre-échange que l'on a pu connaître depuis cet accord Cobden-Chevalier signé en 1860 jusqu'à nos jours, en passant par l'adhésion de la France au GATT, la construction de l'Union européenne, de ce que va apporter ce traité supplémentaire pour une économie déjà très ouverte.
Et de fait, Flora Bellone, est-ce qu'on pourrait proposer une définition du libre-échange au plus petit dénominateur commun? Si on devait le faire, ce serait quoi? Ce serait l'absence de tarifs douaniers? Est-ce qu'on peut seulement en proposer une définition?
Je définirais le libre-échange exactement comme cet ensemble de règles et d'institutions qui, effectivement, encadre et plutôt favorise et plutôt vise à baisser, effectivement, les droits de douane et les barrières à l'échange des marchandises.
Et puis Flora Bellone, ce qu'évoquait Guylain Delaplace à l'instant, cette idée de toujours relier finalement ce qui se passe en termes de commerce international avec le commerce aussi en interne au niveau national et puis l'économie nationale, on la retrouve en fait de façon assez régulière. Je peux notamment citer le cas de Cecilia Malmström, commissaire européenne au commerce en 2015, qui affirmait que le commerce n'est pas la solution, mais une partie de la solution qui permettra de relancer la croissance et de créer des emplois. Alors, 2015, c'était dans le cadre de la négociation du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, le TTIP ou TAFTA selon les versions. Finalement, c'est cette idée-là qui revient. On veut bien du commerce international, Flora Bellone, mais si c'est pour porter la croissance du pays.
Exactement, vous avez amorcé votre émission en disant est-ce que le libre-échange est la source de prospérité économique, on va revenir sur les grands penseurs, sur cette idée-là. Et la réponse immédiate, c'est que un économiste vous dira, ce n'est pas la source première de gains de prospérité économique. La source première, c'est les avancées des technologies, c'est le progrès technologique. Néanmoins, il y a des articulations très fortes et qui sont souvent négligées par une lecture strictement en termes d'avantages comparatifs ou de gains du commerce international uniquement en termes d'efficacité dans l'allocation des ressources, excusez-moi d'être... Mais c'est cette articulation qui est complexe entre libre-échange, progrès technologique et croissance qui peuvent fonder ce lien entre libre-échange et prospérité économique et croissance à long terme qui n'a rien d'un lien évident ou automatique.
On va voir effectivement comment de nouveaux facteurs viennent jouer aussi sur les théories qui ont mis des siècles à s'élaborer. C'est ce que nous allons voir justement et notamment avec vous, Guylain Delaplace. J'ai une question cependant avant de rentrer sur ces grands penseurs de l'économie et du commerce international. Est-ce que finalement le libre-échange préexistait en termes de pratique à la notion même de libre-échange? Est-ce qu'à partir du moment où les nations ont les moyens technologiques, c'est-à-dire en termes de transport, de bateaux, etc., d'échanger entre elles, est-ce que finalement, spontanément, ce qui s'est mis en place, ce n'est pas du libre-échange, c'est on commerce un peu comme on le veut, et c'est la première forme de commerce international qui a pu avoir lieu?
Non, je crois que c'est une vision un petit peu idyllique de l'origine du libre-échange. Je crois qu'il faut avoir en tête que les réflexions et les pratiques sur le commerce international ne naissent pas, on va dire à partir du XVIe siècle, autour de cette question du libre-échange. On est dans une époque où on ne raisonne pas avec cet horizon-là. Bon, il est de coutume d'appeler cette époque et la réflexion qui lui est associée le mercantilisme. Or, dans le cadre de la pensée mercantiliste, on est à l'opposé de l'approche qui deviendra celle du libre-échange plus tard. C'est vrai au niveau des marchands eux-mêmes, donc disons de leur pratique, hein, puisque le cadre dans lequel cette activité des marchands, que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan international, s'exerce, c'est un cadre qui est très réglementé. C'est plus sous la forme de restriction que sous la forme de liberté que cette activité peut se développer. Mais c'est vrai aussi au niveau, on dirait, global aujourd'hui, c'est-à-dire si on s'interroge sur l'enrichissement des nations, hein, la question qui traverse toute la discussion qu'on aura aujourd'hui, même si aujourd'hui on dit plutôt théorie de la croissance, mais bon, peu importe, on parle de la même chose. Cet enrichissement des nations, il est vu à l'époque mercantiliste comme passant par un excédent de la balance extérieure. C'est-à-dire, bon, une nation s'enrichit si elle exporte plus qu'elle n'importe, si elle a une balance extérieure positive. Or, immédiatement, et les premiers auteurs qui réfléchissent là-dessus comprennent bien que toutes les nations ne peuvent pas s'enrichir de cette façon-là. On est dans un jeu à somme nulle.
Il y a nécessairement un perdant.
Donc, s'il y a des gagnants, comme vous le dites, il y a des perdants. Et donc, c'est une espèce de compétition dans cette course à l'excédent du commerce extérieur. Et c'est là où la question du laisser-faire en français, free trade en anglais, va apparaître. Est-ce que l'État peut intervenir, en quelque sorte, pour favoriser les marchands, donc leur activité, on dirait aujourd'hui microéconomique, mais aussi pour favoriser l'enrichissement macroéconomique. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, si l'État intervient, ben ce sera à coup de réglementation, par exemple de droits de douane, de contingentement et tout ça, pour réduire les importations, mais aussi en mettant, on pourrait dire, son poids dans la balance, hein, c'est-à-dire en utilisant tous les instruments de sa puissance, y compris de sa puissance militaire, pour favoriser les exportations. Donc le cadre de pensée qui est celui du mercantilisme, n'est pas un cadre de libre-échange. Les premières réflexions sur le commerce extérieur ne s'inscrivent pas dans une perspective qui est celle du libre-échange. Cela dit, il ne faut pas non plus opposer le mercantilisme et le libre-échange comme étant deux doctrines monolithiques, et l'une ayant remplacé l'autre à un certain moment. Très tôt, et en particulier en Grande-Bretagne, puisque, je dis tout à l'heure, en France, la question est plutôt la question intérieure. Le laisser faire. Mais très tôt en Grande-Bretagne, et ça peut s'expliquer pour des raisons historiques, l'Angleterre est une île, comme tout le monde le sait, il y a cette réflexion sur le free trade, et cette réflexion, elle est portée par des marchands.
C'est ce que je vous demandais, qui sont les mercantilistes?
Pas contre l'État, comme en France, mais contre d'autres marchands, contre des monopoles marchands. Et de plus en plus, on a des auteurs mercantilistes, et ça c'est dès le XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, qui disent, mais attention, si on voit les choses de cette façon-là, décourager les importations et favoriser les exportations, peut-être qu'on se prend les pieds dans le tapis, parce que c'est peut-être intéressant d'importer des biens pour les réexporter. On va importer le poivre du Moyen-Orient pour le réexporter en Europe continentale, ou plus encore, d'importer des biens pour les transformer dans des manufactures, de manière à exporter des biens, on dirait aujourd'hui, à plus grande valeur ajoutée. Autrement dit, on ne doit pas opposer ainsi importation et exportation.
Ça dépend de ce qu'on
et
fait
libérer les importations, réduire les restrictions aux importations, contingentement, droits de douane, etc. Ça peut être aussi une manière de stimuler les exportations et donc d'arriver à cet objectif qui est une balance extérieure favorable. Mais c'est toujours ça, je crois, qui est important de comprendre, c'est l'objectif, c'est quand même la balance extérieure favorable. Ce qui change dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, évidemment le grand bonhomme, on en parlera peut-être, c'est Adam Smith, c'est l'inscription de cette question-là dans une théorie générale de l'économie, donc c'est plus une question isolée, ça devient une partie de la théorie générale de l'économie.
Alors, juste une petite parenthèse, Guilain de Leplace.
La marche vers le libre-échange va pouvoir commencer.
C'est intéressant ce que vous venez de dire, Guilain de Leplace, puisque vous dites qu'effectivement, on a cette vision générale de l'économie, beaucoup plus macroéconomique. Est-ce qu'il faut en conclure avec vous que les mercantilistes, finalement, n'ont qu'une petite vision, le petit bout de la lorgnette, finalement, et qu'ils ne pensent qu'à leur intérêt propre, étant donné qu'ils sont des marchands, potentiellement des conseillers du prince? Mais est-ce qu'ils manquent finalement de vision, alors qu'on pourrait dire que c'est une époque où on a quand même une vision de ce qu'est la grandeur d'une nation, ne serait-ce que politiquement, ne serait-ce que diplomatiquement?
Alors, il faut faire attention, parce que si on considère les idées mercantilistes comme étant des idées un peu frustes, un peu partielles, bon, ça risque de nous revenir dans le visage comme un boomerang, parce que peut-être qu'un petit peu plus tard dans la discussion, et précisément à propos du Mercosur, on s'apercevra que ce qui est en jeu derrière ça, c'est moins le libre-échange que des politiques mercantilistes. Peut-être que l'Allemagne aujourd'hui mène une politique mercantiliste sous le faux nez de la promotion du libre-échange. Donc il faut faire très attention, ces idées mercantilistes n'ont pas disparu, comme ça, par enchantement au XVIIIe siècle, parce qu'elles ont été submergées par de meilleures idées, les idées libérales, c'était des idées qui tenaient la route, mais... Vous avez raison, on n'a pas une théorie générale du fonctionnement de l'économie.
Oui, loin de moi l'idée de critiquer.
Voilà. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, il y a de bonnes réflexions chez les mercantilistes sur le commerce extérieur, sur le rôle de l'État, sur la monnaie, c'est très intéressant, mais on n'a pas une théorie générale du fonctionnement de l'économie, avec toutes les articulations entre la détermination des prix sur les marchés, la répartition des revenus, l'investissement, l'épargne, la croissance économique, ce qu'on appelle à l'époque l'accumulation de capital. Tout ça, c'est effectivement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que ça apparaît. Et donc, le cadre de pensée se modifie considérablement à ce moment-là. Et il faut voir l'émergence du libre-échange dans ce nouveau cadre de pensée. Ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir, même une fois le libre-échange ayant acquis ses lettres de noblesse dans la théorie économique, il ne faudra pas voir ça comme étant quelque chose de monolithique. Il y a plusieurs approches du libre-échange international, y compris chez les grands auteurs canoniques qu'on met en avant, c'est-à-dire par exemple Adam Smith ou David Ricardo, qui sont considérés comme étant les deux exemples de cette émergence d'un discours en faveur du libre-échange international à la fin du 18e au début du 19e. Ils disent pas la même chose tous les deux, ils ont pas la même conception du libre-échange international et de son rôle dans la croissance économique globale.
Et on va largement revenir sur ces deux personnages que vous venez d'évoquer. Avant ça, Flora Bellone, ce qu'on comprend finalement avec Guilain de Leplace, c'est que de libre-échange, il n'y a jamais vraiment eu, puisque très vite on cherche à encadrer le commerce international. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a aujourd'hui des exemples concrets d'effectivement d'échanges au moins entre deux nations qui relèveraient du libre-échange? Est-ce que le libre-échange pur et parfait existe?
Alors, déjà, avant de venir sur la période contemporaine, j'ai envie de dire qu'avant même le mercantilisme, donc au Moyen-Âge, hein, si on doit remonter, il y avait le commerce au long cours par les marchands organisés autour des cités-États, alors même que les nations n'étaient pas encore pleinement constituées. Et les gains qui étaient rapportés, la richesse qui était rapportée de ce commerce très peu réglementé pour le coup, ou en tous les cas pas du tout par les États-nations, étaient des gains qui ont été où les marchands, ces marchands sur longue distance, se sont associés aux suzerains, aux rois qui essayaient de conforter leur pouvoir sur les pouvoirs locaux féodaux et qui ont profité de cette richesse et de cette alliance entre ces marchands de longue distance et les suzerains pour imposer leur autorité et finalement intégrer leurs marchés nationaux et libérer le commerce au sein des territoires nationaux.
Okay, donc c'est vrai, il y avait déjà
cette constance et déjà cette présence d'une forme, de commerce longue distance, de libre-échange. Donc aujourd'hui, pourquoi on dit qu'on est dans une ère de libre-échange et même d'hyper libre-échange par rapport à ces périodes antérieures au 19e siècle? C'est parce qu'on a effectivement, on s'est accordé multilatéralement, on a développé énormément d'institutions qui ont promu ce libre-échange. On a tendance à dire que le libre-échange, c'est aussi une force un petit peu exogène à l'économie parce que derrière, il y a ces progrès technologiques. Vous avez évoqué les navires, il y a la machine, il y a le bateau à vapeur et il y a ensuite le porte-conteneur, le fret aérien, il y a la baisse des coûts, il y a la révolution Internet qui a baissé les coûts de coordination. Et toutes ces révolutions technologiques ont toutes été des moteurs, puisqu'on fait tomber les barrières, les coûts de la distance économique. On pourrait avoir tous les accords de libre-échange qu'on veut aujourd'hui. Si c'était coûteux, on pourrait pas. Donc, effectivement, le progrès technique est une force motrice de la libéralisation du commerce, mais ça n'a jamais le dernier mot. Le dernier mot, c'est les accords qu'on signe ou pas. Donc, c'est les forces géopolitiques, c'est les intérêts socio-économiques. Ce sont des accords politique.
Et de fait, Flora Bellone, est-ce que je reviens tout de même à ma question, est-ce qu'il existe des formes d'échanges commerciaux qui seraient exempts de toute tarification, de tout frais de douane, de toute forme de taxe?
Eh bien, certains accords, effectivement, fixent des droits de douane quasi nuls donc, entre certains pays. Donc, je ne vais pas me risquer, je laisse ça à mes collègues du CEPI pour savoir où les droits de douane sont ici ou là. Mais oui, on a des droits de douane quasi nuls. Bon, à commencer par ce qu'on fait au sein de l'Union européenne, où on a une libre commerce entre États souverains. Voilà, donc, à commencer par le marché unique. Voilà.
De 1957, on va revenir aussi sur ces années 50, en tout cas cette seconde moitié de 20e siècle. Avant cela, retour en arrière, Guilain Delaplace. Une des raisons aussi pour lesquelles on a parlé du progrès technologique qui est très important, qui est un facteur déterminant, une des raisons aussi pour lesquelles peut-être les mercantilistes s'approprient ce sujet-là du commerce international, c'est que le contexte, effectivement, les pousse à le faire. On est presque, alors je m'avance peut-être un peu, mais on est presque dans une phase de première mondialisation. Les échanges s'intensifient, on échange des pierres précieuses, de l'or, et l'or a une grande importance aussi pour les mercantilistes.
Oui, mais c'est pas parce qu'on s'intéresse au commerce extérieur qu'on en a une vision en termes de libre-échange.
Bien sûr.
Bien entendu, et Flora Bellone a tout à fait raison de le rappeler, le commerce au long cours, il remonte à l'Antiquité. Hein, les Phéniciens, la fondation de Marseille, c'est pas comme ça. Bon. Donc, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'il y a commerce, y compris au long cours, qu'il y a libre-échange tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il faut bien voir que l'idée du libre-échange ne s'incruste véritablement chez les économistes, donc dans la seconde moitié du 18e, à travers la notion de division internationale du travail. Hein, c'est ça. D'ailleurs, on peut dire autrement la spécialisation de chaque pays. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de commercer. Et encore une fois, le commerce extérieur, il est très ancien, et c'était pas effectivement un commerce international, c'était pas entre des nations, c'était un commerce entre des marchands qui ne voyaient que leur intérêt.
Asiatique, bon. Entre autres.
Mais à partir du moment où on se dit oui, mais c'est important du point de vue du pays dans son ensemble, de ne pas tout produire, mais de se spécialiser dans ce pour quoi on est bon et qu'on pourra exporter vers d'autres pays. Ce qui veut dire aussi, bien entendu, qu'on importera de ces autres pays ce qu'on aura décidé de ne plus produire. Là, il y a un pas qualitatif qui est fait. Mais je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que si ce pas qualitatif est fait, donc je dirais dans la seconde moitié du 18e, c'est vrai dans les idées, c'est vrai dans les pratiques, c'est aussi parce qu'il y a un changement dans la vision de l'économie dans son ensemble. Hein, c'est-à-dire que c'est plus une vision de l'économie autour de cette relation, un petit peu je t'aime moi non plus, les marchands et l'État, qui est au cœur de la pensée mercantiliste. C'est une vision de l'économie dans les relations entre les individus eux-mêmes. Hein. Et d'une certaine façon, je reviens sur cette histoire de laisser-faire dont j'étais parti, le corollaire, ça va être, l'État, finalement, il ne doit pas intervenir là-dedans. Il doit laisser les individus, que l'on soit à l'intérieur d'une nation ou que l'on soit entre les nations, il doit laisser les individus poursuivre leur intérêt et tout le monde y trouvera son compte. Donc, on voit bien que il y a un changement, on dit aujourd'hui de paradigme, voilà, une vision tout à fait différente, changement de paradigme, parce que c'est plus la question des relations entre les marchands et l'État, qui est une question aussi vieille que le monde, on pourrait dire, c'est une question de l'organisation même des rapports économiques entre les individus, telle qu'elle se fait à l'intérieur des frontières, mais aussi entre les frontières, et le credo du libre-échange international, c'est il ne doit pas y avoir de différence en deçà et au-delà des frontières. Il ne doit pas y avoir vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Non, de la même manière qu'il doit y avoir une liberté économique des agents, et donc on retire la grosse main de l'État à l'intérieur des frontières, et bien aussi entre les frontières, cette liberté doit pouvoir s'exercer. Et donc, toutes les tentatives, même si elles peuvent paraître fondées du point de vue de l'intérêt national, pour entraver ces relations interindividuelles au niveau mondial, elles doivent être abandonnées et on doit aller vers une généralisation de la liberté du commerce, ou de la liberté économique, que ce soit dans les nations ou entre les nations.
Mais vous faites bien de parler de changement paradigmatique, peut-être en tout cas de changement de vision, parce qu'effectivement cette idée d'une liberté laissée aux individus, c'est aussi au XVIIIe siècle ce que revendiquent les physiocrates. Je crois qu'on dit que c'est Vincent de Gournay qui a aussi soutenu le laisser-faire, laisser-passer les hommes. Est-ce que c'est dans la même logique que tout cela s'inscrit ?
Alors, d'une part, les relations entre Vincent de Gournay et les physiocrates, c'est un peu compliqué.
Bon, oui. Mais là, on va pas
faire
je
un cours d'histoire de la pensée.
Mais
non, c'est vrai. Vous avez raison que en France, très tôt, donc dans les années 1750, hein, le pape de la physiocratie, puisque vous en parlez, c'est Quesnay, le tableau économique 1758. Il y a cette idée que bon, il faut donner plus de liberté aux individus, mais c'est pas d'emblée vu sous l'angle international. Là où c'est vu sous l'angle international, c'est de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne. Mais pour des raisons qui sont assez compréhensibles. La France est un grand pays agricole, avec une population importante. C'est d'ailleurs pour ça que les physiocrates, pour l'essentiel, représentent l'économie comme étant un royaume agricole, disent-ils. Bon, les Anglais, eux, sont plutôt intéressés par la relation entre le commerce intérieur et le commerce extérieur. Donc, c'est vrai, c'est dans l'air. Mais, bon, je suis économiste, hein, historien de l'avancée économique, mais d'abord économiste. Et j'aurais tendance à penser que c'est moins l'esprit des Lumières, une vision libérale de la politique qui joue dans cette affaire que, véritablement, la naissance d'une économie politique. Le terme économie politique est plus ancien. Il est attribué à Montchrétien au début du XVIIe siècle. Mais la science, la vision rationnelle du fonctionnement de l'économie, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la science économique, qu'on appelle encore à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, l'économie politique, c'est à ce moment-là que ça apparaît. Et c'est dans ce cadre-là. Ce sont des économistes, hein, qui sont à la manœuvre pour, allez, disons-le d'un coup, changer la société.
Et du reste, et puisqu'on parlait de l'Angleterre et du fait que tout se joue là-bas, du reste, on parlait des mercantilistes, mais les mercantilistes ne se reconnaissent pas comme tels. C'est Adam Smith qui va les nommer ainsi, et c'est Adam Smith qui va leur donner une identité économique, presque, on pourrait le dire.
Oui, alors, Adam Smith est un petit peu de mauvaise foi, hein, parce que il sait très bien que chez les auteurs mercantilistes, il y a de bonnes choses. Il y a un grand auteur mercantiliste qui est presque un contemporain de Smith, James Tyrart, qui écrit donc dans les années 1750, et qui a des analyses tout à fait intéressantes. Et Smith les connaît. Mais Smith, il a besoin d'un punching ball, en quelque sorte. Pour asseoir sa théorie économique, il a besoin de construire un adversaire, et il le fait de façon très systématique, d'ailleurs, d'une manière bon, qui n'est pas très très respectueuse en termes de référence. Souvent, il ne mentionne pas les auteurs. Stoyart n'apparaît jamais.
Il les met dans un même sac.
Bon. Mais voilà, il construit une vision monolithique du mercantilisme pour mieux la démolir. Bon, et tout le livre 4 de l'enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, donc le magnum opus de Smith en 1776, est consacré à une critique du mercantilisme. Mais justement, il le fait parce que ce qu'il s'agit de vendre, en quelque sorte, c'est sa théorie à lui, qui est une théorie nouvelle, effectivement, qui ne se pose pas les mêmes questions que celles des mercantilistes, puisqu'encore une fois, c'est une vision d'ensemble de l'économie. Et la question du commerce international, du libre-échange international, n'est qu'une conséquence de cette théorie. Alors, je ne sais pas si on peut en dire un mot.
Alors, j'ai une question à vous poser justement sur la vision du commerce international par Adam Smith, et notamment parce que, alors c'est toujours très facile de tronquer des passages de son ouvrage qui est extrêmement volumineux, mais il y a un passage quand même qui interroge, il le dit, « Les bouleversements ordinaires de la guerre et de la politique dessèchent facilement les sources d'une richesse qui vient uniquement du commerce. L'opulence qui s'élève sur des progrès plus solides comme ceux de l'agriculture est beaucoup plus durable. » On a l'impression qu'Adam Smith ne voit pas tellement dans le commerce international une source d'enrichissement pour la nation.
Oui, mais vous voyez, quand il parle du commerce, on pourrait dire bah, c'est quoi la différence avec les mercantilistes ? Et quand il parle de l'agriculture, c'est quoi la différence avec les physiocrates ? Donc, pourquoi, comme ça, considérer que Adam Smith est le père de l'économie politique et estampillé comme tel ? En réalité, le titre de son ouvrage le dit bien, Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations. Donc, très très schématiquement. Hein. La richesse des nations, c'est une richesse matérielle, c'est produire des biens. Bon. Or, une nation est riche, elle produit beaucoup de biens, non pas parce qu'elle a une population importante, mais parce que les travailleurs sont chacun productifs. Il vaut mieux avoir une population faible, mais avec une grande productivité du travail, qu'une population nombreuse avec une productivité du travail faible. Or, qu'est-ce qui développe cette productivité du travail, ce qu'il appelle la division du travail, hein. Vous avez peut-être, tout, si vous êtes passé par les bancs des facultés d'économie, ça a débordé de ça, hein, l'image de la fabrique d'épingles. Hein, une image très 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 connue. Bon, si on spécialise chaque producteur, on en prend 10, chacun spécialisé dans une tâche particulière, eh bien à 10, ils vont produire beaucoup plus d'épingles en une journée que si on prend 10 travailleurs qu'on met côte à côte, mais chacun fournissant la totalité des tâches. Donc, voilà. Mais pour produire plus, c'est bien. Ça, c'est l'aspect technique. Encore faut-il vendre.
Et trouver des débouchés.
Donc, il faut que le marché suive. Et au bout du compte, qu'est-ce qui explique la richesse des nations ? C'est l'étendue du marché. C'est pas l'activité des marchands qui est la source de l'enrichissement. Non, c'est l'activité productive des travailleurs. Le travail est la source de toute richesse. Mais ce travail ne peut contribuer à l'enrichissement des nations, à la croissance économique, on dirait aujourd'hui, que si le marché s'étend. Et Smith, qui a une vision aussi historique des choses, dit mais c'est comme ça que ça s'est passé. On a commencé par échanger à l'intérieur d'une communauté, et puis entre les communautés, et puis ensuite entre les villages et les cités, et puis entre les cités. Le commerce international, c'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. C'est simplement étendre le marché au-delà. Et alors, vous voyez bien la performance que remplit Smith à cette occasion-là, c'est que en introduisant cette idée de continuité entre le marché intérieur et le marché international, hein, le marché international permet d'étendre davantage le marché intérieur, qui lui-même est source de bienfaits grâce à la liberté économique individuelle, on introduit une continuité intellectuelle, mais aussi politique, puisque il va falloir faire passer cette idée-là dans la pratique, y compris contre les politiques qui renâclent, une continuité entre le laisser-faire intérieur et le libre-échange international. Voilà, c'est le même mouvement d'ensemble et qui est assimilé à un mouvement de progrès, puisque tout cela contribue à la croissance économique des nations.
Et de fait,
c'est merveilleux.
C'est assez merveilleux, il faut
le dire.
C'est
une belle opération intellectuelle.
Sur le papier, c'est assez merveilleux, mais il faut le dire. Vous disiez qu'il fallait convaincre finalement les politiques aussi que là se trouvait le bien-être ou en tout cas la richesse des nations. En 1786, donc on est vraiment dans un mouchoir de poche en termes de période, est signé un traité de commerce de libre-échange entre la France et la Grande-Bretagne. C'est le traité Eden-Reneval. Alors en quoi consiste ce traité, Guylain de Leplace? Est-ce qu'il faut y voir finalement une... Flora Bellone, peut-être.
Il faut se tourner vers Flora Bellone, qui connaît mieux.
Mais si peu de temps après, Adam Smith, on peut y voir tout de même peut-être une.
Oui, mais attention. Il n'y a pas un avant et un après 1776. Hein. Les idées que porte Adam Smith et qu'il arrive à conceptualiser dans un ensemble, elles étaient déjà dans l'air. Hein. C'est pas Smith qui est à l'origine du traité de libre-échange 10 ans après la richesse des nations.
Je me risquerai pas non plus à préciser ce qu'il y avait dans ce traité. Ce que je peux dire pour la connaissance de cette période que je peux avoir, qui reste parcellaire, c'est que évidemment la Grande-Bretagne voulait ouvrir ses marchés, enfin étendre, chercher ses marchés pour ses productions industrielles qui commençaient à étendre au leadership de la révolution industrielle et clairement a forcé un peu ce libre-échange aux autres nations européennes, la France entre autres et l'Allemagne. Mais en prenant ce train, on va dire, on a effectivement fait partie de cette... on a développé également notre industrie, on a également profité de cette industrialisation et de ses progrès et de la possibilité effectivement de vendre ces biens déjà entre entre nous et puis sur les marchés extérieurs. Mais la question que vous posiez à la base, et c'est vrai, c'est que là, on parle d'un lien qui pourrait y avoir entre, effectivement, une extension à l'échelle mondiale du commerce, de la liberté de commerce, qui pourrait produire la prospérité à l'échelle mondiale. Mais en fait, quand on pense à la richesse des nations, la question qui se pose, c'est quelle moi, nation une nation, oui. Est-ce que je vais gagner à mon ouverture internationale? Et là, je pense que l'histoire des faits est sans appel. Je veux dire, il n'y a aucun pays qui a aujourd'hui le niveau de vie qu'a la France, donc environ 40 000 dollars par habitant, ce qui ne veut pas dire grand-chose souvent aux auditeurs, mais c'est ce qui permet de payer un salaire médian de 2 100 euros par mois, s'il y a un lien direct entre cette richesse-là qui est créée, cette valeur ajoutée produite sur notre territoire, et ce qu'on peut payer en termes de salaire qui parle peut-être plus aux auditeurs. Ce niveau de vie, aucune nation ne l'a atteint sans participer au libre-échange, Mais qu'est-ce que donc toutes les stratégies de croissance isolationniste ou beaucoup plus fermées sur ce long terme, hein, j'entends, n'a pas produit cette richesse. Mais la question, c'est qu'est-ce que le commerce a apporté à ces nations? Quelle part a pris? Puisqu'on a dit la source principale, c'est le progrès technique. Et là, c'est vrai que souvent, on se tire, je pense, nous économistes, une balle dans le pied en voulant absolument tout faire entrer dans ce concept d'avantage comparatif statique. On va diviser le travail au mieux internationalement. On va avoir des gains d'efficacité, en fait. On va mieux, on va pouvoir produire un peu plus, échanger selon nos avantages comparatifs. Et oui, ça va introduire des gains d'efficacité. Mais les vrais gains qui ont permis ce lien entre libre-échange et croissance pour nos économies, c'est le fait que en se spécialisant, enfin en tous les cas, ce libre-échange a été une condition, je veux dire, nécessaire pour cette prospérité, mais parce qu'on a été amené à nous spécialiser dans des industries particulièrement innovantes et ça nous a incité à innover davantage.
Oui, encore fallait-il se spécialiser au bon endroit, finalement.
Alors, oui. Alors, on peut évoluer sur notre échelle d'avantage comparatif, mais dans cette même histoire longue, on peut trouver beaucoup d'exemples de pays qui se sont ouverts et qui se sont retrouvés enfermés dans des spécialisations appauvrissantes, donc matières premières avec des gros appétits sur les rentes très captées par une fraction très faible de la population, des spécialisations dans des industries à faible intensité technologique, découragées d'innover, découragées de s'industrialiser. Donc j'ai envie de dire que l'histoire est sans appel, le libre-échange, condition nécessaire de l'enrichissement, mais pas suffisante. Il faut des politiques industrielles, des politiques de croissance pour que chaque nation y trouve son compte.
Ce que vous dites, Flora Bellone, c'est qu'il y a finalement un risque qu'en se spécialisant dans la perspective d'un commerce international, on finisse par ne plus répondre aux besoins même nationaux.
Ce que je dis, c'est que on peut parfois exploiter des avantages comparatifs qu'on peut avoir à un moment du temps donné, surtout si ce raisonnement que je fais, il est particulièrement vrai pour les pays émergents, en fait, hein, pour les pays qui ne sont pas encore industrialisés. On peut exploiter des avantages comparatifs et puis finalement se retrouver bloqué et pas évoluer vers des spécialisations plus enrichissantes ou progresser technologiquement. Maintenant, on est donc ça a été vrai et les pays industrialisés ont été les grandes gagnantes du libre-échange jusque dans les années 90. Aujourd'hui, les choses s'inversent avec la relocalisation de l'industrie vers les pays émergents et l'émergence. Et là, effectivement, pour nos économies, il faut se poser la question de ce qu'on veut protéger et de, effectivement, qu'est-ce qu'on attend encore du libre-échange et si on doit... J'ai perdu le fil de la
Vous êtes arrivé très vite aux années 90. Pardon. Vous êtes arrivé très vite aux années 90 et on y vient. Avant cela, on a parlé d'avantages comparatifs, oui. Guylain Deleplace. Difficile d'en parler sans parler, évidemment, de David Ricardo, qui lui aussi va se saisir du sujet. Vous l'avez dit, c'est un desquels on pense assez systématiquement dès lors qu'on parle de libre-échange. David Ricardo, qui publie en 1817 sa grande œuvre « Des principes de l'économie politique et de l'impôt ». Pourquoi un personnage comme lui, économiste relativement autodidacte, agent de change, va également s'intéresser aux questions de commerce international et quelle vision il en propose?
Bon, alors je vais pas trop parler de Ricardo parce que j'en ai déjà souvent parlé sur votre antenne, ici ou ailleurs. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il porte une vision du libre-échange international qui est assez différente de celle de Smith. Et c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure. Smith, c'est vraiment l'extension du marché. Bon, pour dire simplement, les exportations. Cela dit, on peut pas développer les exportations si, parallèlement, on développe pas les importations, puisque se spécialiser, ça veut dire renoncer à produire certains biens qu'il faut bien importer. La vision de Ricardo est tout à fait différente. Et là aussi, elle s'ancre dans une théorie générale de la croissance économique. Le point central pour Ricardo, c'est, allez, même s'il n'utilise pas aussi facilement ce terme que Marx, mais c'est quand même une vision qui sera reprise et développée par Marx après, une vision en termes de classe sociale. C'est-à-dire que une économie, telle que l'économie anglaise, c'est divisée entre des capitalistes, des travailleurs salariés et des propriétaires fonciers, les trois grandes classes. Et la relation centrale là-dedans, c'est la relation entre le taux de profit et le taux de salaire. Or, qu'est-ce qui détermine le taux de salaire ? Le prix des biens de subsistance, le blé, pour dire les choses simplement. Et là, on a une dimension tout à fait différente, mais passionnante aussi, du libre-échange international. C'est que Ricardo dit, mais pourquoi est-ce que on produit le blé en Grande-Bretagne alors que les terres sont moins productives qu'ailleurs? Ce serait quand même beaucoup mieux de l'importer de l'extérieur. Ça permettrait de faire baisser le prix du blé en Grande-Bretagne, et donc de contenir la hausse des salaires, puisque le problème, c'est que dans le processus de croissance, la population augmente. Si la population augmente, la quantité de blé demandée augmente, et si on continue à ne produire du blé que en Grande-Bretagne, alors il arrivera un moment où les salaires montant, le taux de profit baissera, l'investissement s'arrêtera, et on sera à l'économie stationnaire. Donc on voit bien que dans ce cas-là, c'est plus du point de vue de l'intérêt de l'économie nationale qu'on est favorable au libre-échange international. C'est plus les importations, mais pas n'importe quelle importation, pas les importations de biens de luxe, comme au XVIIe siècle. Non, les importations de biens de consommation salariale, parce que c'est ça qui va permettre de protéger la dynamique du capitalisme contre ce qui, pour Ricardo, est le risque principal, c'est-à-dire la baisse du taux de profit en raison de la hausse du prix des biens de subsistance. Et ça, c'est une autre manière de justifier le libre-échange international, qui est différente de celle de Smith, mais dans les deux cas, on a des gens qui sont des libéraux.
France Culture.
Je veux l'augmentation des tarifs douaniers sur la chaussure étrangère.
Entendez-vous l'écho?
Plus de concurrence, hein?
Mais pourquoi pas? Nos établissements emploient des milliers de braves gens. Notre devoir est de les protéger.
Par une politique protectionniste.
Bien sûr. Alors, nous sommes d'accord?
Sur tous les points.
Aliette Ovine.
Guilain de Leplace, vous n'aimez pas les faits, mais on peut tout de même rappeler qu'en 1815, ce sont les camps de Loos qui sont instaurés, ce qui est en lien direct avec ce que vous venez de nous expliquer sur l'importation et l'exportation de blé. Ces camps de Loos sont abolis en 1846. Est-ce qu'il faut y voir une forme de triomphe du libre-échange à ce moment-là? Parce que le 19e siècle est le triomphe à la fois théorique et peut-être aussi pratique du libre-échange.
Alors, c'est vrai qu'on peut dire d'une certaine façon que l'abolition des camps de Loos est un triomphe post-mortem de Ricardo. Ricardo meurt en 1823, compte tenu du rôle très important qu'il a eu lors des discussions en 1815, lors de l'établissement des camps de Loos après Waterloo, lorsqu'il s'est agi pour l'aristocratie foncière britannique qui tenait les leviers du pouvoir. C'est elle qui dominait le Parlement, en quelque sorte de protéger ses intérêts. Elle avait bénéficié, cette aristocratie, d'un prix élevé du blé. Bah, à l'époque du blocus continental, on pouvait pas importer de blé du continent, donc évidemment ça poussait le prix du blé à la hausse, donc la rente foncière. Et il s'agit en quelque sorte de continuer la même chose en temps de paix. Et Ricardo s'oppose à ça, et du point de vue, c'est ça qui est intéressant, de l'intérêt général, pas seulement de l'intérêt des capitalistes, mais de l'intérêt général, puisque la baisse du taux de profit, pour lui, ça signifie à terme l'arrêt de la croissance économique. Donc c'est l'intérêt de tous, sauf bien sûr les propriétaires fonciers, que de laisser le blé étranger rentrer. Mais en 1815, il perd, les Corn Laws sont adoptés, et il faudra, vous l'avez dit, effectivement, 30 ans pour que, en quelque sorte, une fois qu'on a compris à quoi ça servait, l'importation du blé, on fasse ça. Donc c'est intéressant de voir que il y a aussi cette dimension-là. Hein. Mmh. C'est pas seulement la dimension marché. Et je crois que bon, s'il s'agit d'importer de la viande argentine ou du maïs brésilien, tiens, c'est bizarre. On sort d'une période où il y a eu une forte inflation qui s'est manifestée dans les supermarchés après le Covid, depuis la guerre en Ukraine, etc. ça fait un petit électrochoc. Et on se dit, tiens, c'est pas mal si, après tout, l'importation de biens de consommation salariale moins chers de l'étranger, voilà, c'est pas mal. Alors, les agriculteurs français sont pas contents, comme les propriétaires fonciers à l'époque de Ricardo n'étaient pas contents. Bon, c'est pas la même classe sociale, mais bon, grosso modo, ce sont les mêmes intérêts. Mais ouais, donc, voilà, ça a un écho aujourd'hui. Il y a une petite musique là-dedans qui est que, après tout, le traité avec le Mercosur, c'est aussi une victoire posthume de Ricardo.
Flora Bellone, sur cette victoire de Ricardo, et puis on peut peut-être y venir, en 1860, le traité Cobden-Chevalier que vous évoquiez en début d'émission, ce 19e siècle triomphe du libre-échange, faut-il y croire ?
Alors, en fait, clairement, et du coup, je me rappelle ce que vous m'aviez demandé juste avant, clairement, la question, c'est est-ce qu'on est une des questions trop spécialisées ? Ou est-ce que on parle beaucoup d'indépendance, on veut regagner en indépendance et en souveraineté alimentaire Donc, ce sont des questions qui sont vraiment très, très importantes. Et donc, effectivement, ces gains de spécialisation cette spécialisation totale, elle n'a pas apporté les gains véritables qui étaient les gains de la théorie quelque part statique de David Ricardo. Et donc aujourd'hui, on peut considérer qu'on est en droit de réfléchir à la structure industrielle. Comme je le disais, pour les pays émergents, ça n'a pas été si bon de ne faire, pendant tout le XXe siècle, se spécialiser que dans l'extraction des ressources
et
premières.
Et en s'éloignant des besoins de la population potentiellement.
Et des biens agricoles. Et donc, ils auraient préféré peut-être avoir plus de chances de s'industrialiser. Et nous, aujourd'hui, ce n'est pas complètement non plus hors de propos de s'interroger à si on veut garder une certaine part d'agriculture, quelle part, si on veut pouvoir protéger nos normes sociales, nos normes environnementales et réfléchir précisément à ce que le traité en question UE-Mercosur implique de ce point de vue-là. Mais il faut bien avoir conscience qu'on est en droit, en tant que choix politique, de protéger certains emplois, de protéger certaines normes, mais on va le faire au prix d'un certain coût d'efficacité économique. On va effectivement, si on se protège, eh bien on va accepter de payer notre alimentation plus chère, ou on va limiter certaines réallocations vers l'industrie. Par ailleurs, le traité dont il est question actuellement, c'est aussi un traité qui va aider nos industries. Et notre industrie n'est pas forcément en très bonne position actuellement face à la Chine,
c'est
face aux États-Unis.
C'est la raison pour laquelle l'Allemagne est très, partante.
Est très partante, oui. Sans être mercantiliste. Il y a un besoin de soutenir la compétitivité de l'industrie française et européenne en général. Donc, on voit bien que ce qui se joue, effectivement, c'est un conflit d'intérêts entre les agriculteurs qui ont leurs intérêts. Et donc, c'est effectivement à l'Union européenne de négocier cet accord pour compenser ça, pour bien compenser ses perdants, ses gagnants, pour bien garantir par toutes les clauses qu'on peut faire sur le contrôle que nos normes sociales, nos normes environnementales ne sont pas mises à mal. Mais ça n'enlève pas que ce gain, que cet accord peut avoir des gains comme ont eu d'autres accords de libre-échange jusque-là.
Libre-échange qui est le mot dont nous tentons de trouver une définition avec Guilain Deleplace, professeur émérite à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, et Flora Bellone, professeur d'économie aussi à l'Université Côte d'Azur. C'est une émission qui a été préparée et programmée par Tina Young, mise en onde par Marie-Claire Oumabadi et réalisée par Françoise Le Floch.
Mesdames et messieurs, récemment encore, beaucoup d'entre nous remarquaient que nous avons eu 40 ans de paix. Ils en déduisaient qu'on allait vers des temps d'évolution pacifique. L'illusion de la croissance dans la paix a fait long feu. L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste, se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. Géographiquement, ce milieu représente aujourd'hui encore la plus grande partie du globe. Cependant, le champ d'expansion offert à l'impérialisme apparaît comme minime comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces productives capitalistes. Il faut tenir compte en effet de la masse énorme du capital déjà accumulé dans les vieux pays capitalistes et qui lutte pour écouler son surproduit et pour capitaliser sa plus-value, et en outre de la rapidité avec laquelle les pays pré-capitalistes se transforment en pays capitalistes. Avec le degré d'évolution élevé atteint par les pays capitalistes et l'exaspération de la concurrence des pays capitalistes pour la conquête des territoires non capitalistes, la poussée impérialiste, aussi bien dans son agression contre le monde non capitaliste que dans les conflits plus aigus entre les pays capitalistes concurrents, augmente d'énergie et de violence.
On entendait là un extrait du film Rosa Luxembourg de Margaret von Trotta, sorti en 1986, suivi de la lecture de son Accumulation du capital. Guilain Deleplace, pour Rosa Luxembourg, le libre-échange, c'est conquérir de nouveaux marchés. C'est donc une façon d'introduire une forme de compétition généralisée entre les nations et entre les peuples. Donc c'est loin d'être un moyen de faciliter le doux commerce, comme on dit, et donc une forme de paix entre les nations.
Oui, alors c'est bien de fournir l'occasion de parler de Rosa Luxembourg, qui est pas tellement connue pour ses talents d'économiste,
plus
pour son destin tragique comme leader de la social-démocratie allemande. Mais bon, les écrits économiques de Rosa Luxembourg, ils subissent d'une certaine façon une double peine. Hein. Elle est marxiste, et bon, en général, on dit que le marxisme n'est pas très scientifique. Et puis, bon, c'est une femme. La science économique est une discipline, jusqu'à peu, Flora Bellone est un exemple du contraire, très masculine. Et bon, être une femme en économie...
Je renvoie les auditrices et les auditeurs à l'émission que nous lui avons consacrée à ses écrits économiques.
Alors, ce qui est intéressant, précisément, c'est que, d'une certaine façon, Rosa Luxembourg adopte la même perspective que Smith, mais en la retournant comme un gant, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'idée fondamentale de Rosa Luxembourg, qu'elle reprend de Marx, c'est que le problème de la relation entre la production et les débouchés est pas tellement un problème global, mais un problème de proportion. Proportion entre le secteur qui produit les biens capitaux et les secteurs qui produisent les biens de consommation. Ça, c'est ce que Marx avait mis en avant. Et avec cette idée que, dans la concurrence entre capitalistes, eh bien, les entreprises ont tendance à accroître la part de biens capitaux par rapport au travail, ce que Marx appelle le travail vivant. Ce qui fait qu'il y a une disharmonie entre la croissance du secteur des biens capitaux et du secteur des biens de consommation. D'où un problème de débouché. Et c'est là où Rosa Luxembourg rentre en jeu en disant, ben voilà, finalement, la seule manière pour les producteurs de biens capitaux qui n'arrivent pas à écouler toute leur production, c'est de pénétrer les espaces dans le monde qui ne sont pas encore capitalistes. Sauf que, il y a une limite. Et plus on colonise au sens propre ces espaces non encore capitalistes, plus la rivalité pour cette colonisation s'accroît. Et d'autre part, la concurrence à l'intérieur des nations anciennement développées comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, est une concurrence, on pourrait dire, plutôt pacifique entre les capitalistes. Là, c'est pas du tout une concurrence pacifique. Et ce qui marque cette extension du marché mondial, c'est pas du tout le libre-échange international, comme le disait Smith, c'est exactement le contraire, c'est le protectionnisme, c'est l'impérialisme, c'est le militarisme. L'accumulation du capital, l'ouvrage de Rosa Luxembourg, est publié en 1913. Un an après, elle dit, vous voyez, j'ai raison, la guerre qui vient de se déclarer, c'est ce soubresaut du capitalisme pour conquérir des marchés. Il y a d'abord eu les guerres coloniales, et maintenant ce sont les pays capitalistes qui se font la guerre entre eux pour assurer cette perpétuation du capitalisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que elle appelle les ouvriers allemands, hein. Rosa Luxembourg est allemande de naturalisation, elle est d'origine polonaise, mais est allemande. Elle appelle les ouvriers allemands à ne pas se laisser prendre au piège du nationalisme. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'elle sera assassinée en 1919.
Flora Bellone voulait
Réagir sur l'écho que peut avoir effectivement ce son,
ce texte
que je ne connaissais pas à l'heure d'aujourd'hui, au grand débat. Ça rejaillit sur la question, je pense, de fond qui est la suivante. Parce que c'est effectivement ce qu'on entend et ce que peut-être beaucoup peuvent penser, c'est est-ce que la mondialisation, ça se fait uniquement au bénéfice du grand capital ? C'est ça. Est-ce que le libre-échange, c'est pour enrichir les grandes multinationales ou ça se fait au bénéfice des peuples et des populations qui vont bénéficier de ces gains liés au libre-échange. Et encore une fois, pas uniquement les gains liés aux avantages comparatifs, bien plus de gains. Peut-être que la mondialisation a évolué dans un sens où l'hypermondialisation, comme on dit, qui a justement été trop orientée par les intérêts du grand capital, on va dire. Il faut pas aussi négliger le fait que la mondialisation, ce n'est pas simplement les accords de libre-échange, c'est aussi la mobilité des capitaux et les traités bilatéraux d'investissement où on a pu aller jusqu'à autoriser des multinationales à faire des procès à des États contre leur régulation environnementale ou contre leurs normes sociales. Donc c'est vraiment là qu'on peut considérer qu'on rejoint cette question-là et que, à mon avis, c'est là qu'on peut imaginer vraiment faire évoluer notre cadre global de libre-échange, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain, sans perdre de vue que ce libre-échange, cette libre circulation des marchandises, a permis l'enrichissement des peuples.
C'est intéressant.
Il faut revenir à ça.
Flora Bellone, pour rebondir sur ce que vous dites, l'économiste Danny Rodrigue le dit lui-même, peu de termes utilisés en économie sont aussi idéologiquement chargés que celui de libre-échange. Et lui pointe le fait qu'effectivement, dans les années 90, le régime du commerce mondial est devenu, c'est ce qu'il dit, victime de son succès, encouragé par le développement de l'économie mondiale. Les grandes entreprises et les multinationales ont progressivement mis la main sur les négociations commerciales. L'environnement, la santé publique, la sécurité économique et la justice sociale sont alors passés au second rang, c'est ce qu'il dit. Flora Bellone, effectivement, est-ce que ce sont des facteurs qu'on a eu tendance à négliger dans cette pensée du commerce international ?
Oui, dans la mesure où on a fini par penser, par peut-être faciliter, que la mondialisation était bonne en soi, était bonne pour elle-même, et donc qu'elle engendrerait des gains automatiques pour tous. Et donc, plus les intérêts, évidemment, de ces grands groupes qui ont pu s'étendre et effectivement fragmenter leur chaîne de valeur pour profiter des coûts. Donc, on a pu aller effectivement trop loin dans ce sens-là, avec quand même des gains. Et donc, oui, il faut faire évoluer nos institutions de libre-échange si on peut les sauver quelque part, puisqu'elles sont en crise totale quand les États-Unis se retirent, changent leurs pratiques par rapport aux règles de l'OMC. Elles sont en crise. Est-ce qu'on va pouvoir les faire évoluer vers un sens où on est plus respectueux, effectivement, de la souveraineté de chaque nation et de sa capacité à pouvoir déterminer ce qui est bon pour elle et où elle veut aller.
Vous avez cité l'OMC et on aurait pu passer un certain temps à essayer de comprendre comment le libre-échange ou en tout cas cette vision du commerce international s'incarne au sein des institutions. Guilain Deleplace, cette émission est en train progressivement de toucher à sa fin. Avant cela, je voudrais quand même aborder un point intéressant et celui notamment de la notion de compétitivité qui est très à la mode en ce moment. C'est le mot-clé du rapport rendu par Mario Draghi le 9 septembre dernier. Se protéger ou investir, c'est un dilemme qui avait déjà été identifié par les économistes et au premier rang desquels quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, John Maynard Keynes.
Oui, alors, bon, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'en parler beaucoup, en tout cas pas autant qu'il le mérite. Ce qui est intéressant dans ce que dit Keynes dans son ouvrage principal, les deux derniers chapitres de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt de la monnaie, 1936, c'est un diagnostic qui est un peu surprenant sur ce qui est généralement considéré comme l'apogée du libre-échange en Grande-Bretagne ou dans la seconde moitié du 19e siècle. Il dit en réalité, il n'y avait pas libre-échange. Il n'y avait pas libre-échange international. Et pourquoi? Pour une raison très profonde, c'est qu'on était en étalon or. Donc, la Banque centrale ne pouvait pas baisser son taux d'intérêt. Si elle le faisait, elle perdait ses réserves d'or. Et il y avait la doctrine du laisser-faire. Le terme laisser-faire est un terme français, adopté par John Stuart Mill en 1848, et qui est devenu banal maintenant dans la langue anglaise. Et il y avait cette doctrine du laisser-faire qui empêchait les États d'intervenir. Et donc, dès l'instant où il y avait une crise économique, et c'est le cas pour les 30 dernières années du 19e, la seule solution que pouvaient trouver les gouvernements, c'était d'aller chercher des marchés extérieurs. Donc, d'une certaine façon, c'est assez intéressant parce que Keynes rejoint, il est beaucoup plus respectable que Rosa Luxembourg, mais sur certains côtés, il est assez d'accord avec elle, sans l'avoir jamais lu. Et donc, il dit, il y a un divorce en réalité entre ce que disent les économistes. Il y a eu libre-échange, c'était merveilleux, etc. Et puis, ce qui a été la pratique. Ça recommence dans les années 30, après le grand choc de la crise de 1929. Et donc, le problème, c'est, et c'est intéressant sur Draghi versus Mercosur, c'est est-ce que on essaie de résoudre ces problèmes en interne, par des politiques économiques? Mais ça suppose l'abandon du laisser-faire intérieur. Ou est-ce que, effectivement, comme au 19e, on va chercher des marchés à l'extérieur.
Eh bien, ce sera la question d'ouverture, la question finale. Merci beaucoup Flora Bellone et Guilain Delaplace d'avoir participé à cette émission.
Comment la vie, exclusivement marine, est-elle sortie de l'eau ? Marc Mortelmans vous raconte l'aventure des premiers explorateurs qui passent de l'eau à la terre avant de conquérir le ciel, sans oublier ceux qui sont retournés à l'eau, comme les baleines ou les manchots.
Dans les premiers océans, des molécules trouvent le moyen de s'agréger, puis de se reproduire.
Mécanique du vivant, une collection par Marc Mortelmans, réalisée par Charlotte Roux, à écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Une récente étude de l'INSERM passe au crible les comportements sexuels des Français et des Françaises de 18 à 89 ans.
Sonia Kronlund.
Recul de l'âge des premières fois, diversité des pratiques, puissance du numérique.
Au bout d'un moment, on parle cul et il m'envoie une photo de son pantalon, quoi. Et ça, c'est très excitant, évidemment.